Henri de Régnier, La double maîtresse, Préface. Je ne sais trop, pour dire vrai, d'où j'ai été conduit à écrire ce singulier roman, ni par où il m'est venu à l'esprit. Ce qui est certain, c'est qu'il y trouva presque à mon insu de quoi m'imposer son autorité et me contraindre à faire droit à ses exigences. Malgré tout, je n'aurais pas dû peut-être lui accorder le crédit qu'il réclamait, ni lui permettre de prendre corps en un livre qui, s'il contenta ma fantaisie, ne laisse pas d'embarrasser quelque peu mon jugement. Mais cette hétéroclite figure de Monsieur de Galandot m'est si souvent et avec tant d'insistance apparue à la pensée que j'ai ressenti le besoin de me l'expliquer à moi-même. Je lui ai inventé une vie pour l'écarter de la mienne et j'ai pris ensuite le parti de le faire connaître aux autres pour mieux parvenir à l'oublier. Le voici donc représenté aussi exactement que possible avec les événements que j'ai imaginés autour de lui dans le sens de son caractère. C'est un pauvre homme que Monsieur de Galandot. J'ai eu soin de lui composer une histoire qui lui convainc. Si le lecteur ne voit point là ce que j'y ai voulu montrer, il me pardonnera mon erreur et je lui passerai son désaveu sans lui en vouloir davantage qu'il ne m'en voudra sans doute d'avoir proposé à son plaisir un personnage qui a souvent fait le mien. D'ailleurs, je n'ai guère cherché autre chose qu'à faire défiler sur les verres de ma lanterne quelques ombres à la française et, si j'avais voulu mettre au frontispice le portrait de mon héros, croyez que c'eût été à la manière de ces petites figures de jadis qu'on appelait des silhouettes et qui découpent à plat sur le papier blanc leur profil à l'encre noire. Henri de Régnier. Prologue. Monsieur de Portebise avait beau remonter le cours de son souvenir, il n'y trouvait rien qui concernât particulièrement son grand-oncle Monsieur de Galandot. Il faut dire que les figures les plus familières à la mémoire du jeune homme n'étaient point celles de ses proches. Ses parents avaient plutôt confié son enfance aux mains des serviteurs et sa jeunesse à celle des maîtres à apprendre que prit soin eux-mêmes de l'une et de l'autre. Aussi, des visages qui s'étaient penchés par-dessus son épaule au jeu ou à l'étude, qu'il fouettât une toupie ou feuilletât un livre, lui en revenait-il davantage de servantes et de valets, de cuistres d'écoles ou de régents de collège que de personnes de sa famille. De plus, non seulement frères et sœurs lui firent défaut, mais aussi cousins et cousines, et, par conséquent, les tantes et les oncles. Car Monsieur de Galandot, à proprement parler, ne comptait pas. J'entends par là qu'il ne représenta aucunement et jamais ce personnage si unique et si important à l'enfance et qui tient à ses yeux une place à part, l'oncle. Cet état que M. de Galandot eut pu remplir envers son petit-neveu resta donc sans titulaire dans la mémoire de François de Portebille. Il ne connut pas ce visiteur familier qui ne vient qu'à certains jours et se présente le plus souvent sous un aspect bonasse et débonnaire, qui d'abord s'intéresse au jeu et plus tard au fredaine, ne vous gronde guère et vous morigène tout au plus, vous tapote la joue et vous pince l'oreille et vous laisse le souvenir de sa vieillesse lié bizarrement à celui de votre jeune âge. François, cependant, se souvenait assez bien d'avoir entendu nommer parfois M. de Galandot, mais il n'en savait rien de plus. M. et Mme de Portebise parlaient peu devant leur fils, qui d'ailleurs se trouvait assez rarement en leur compagnie. On ne s'occupa de lui qu'indirectement et par le choix qu'on faisait des gens destinés à sa garde et des personnes chargées de son éducation. Le collège survint. Il ne parut guère plus souvent au parloir qu'il ne venait au salon. Aussi ne regretta-t-il point la maison paternelle. Elle était vaste et déserte, avec un carrosse toujours attelé dans la cour, car Monsieur et Madame de Portebise partaient courir la ville à toute heure de nuit et de jour. Les congés qu'il passait par là ne le divertissaient guère. Il s'ennuyait, et le soir, il avait peur dans sa chambre. Aussi retournait-il sans regret au dortoir, au pupitre et à la férule. De ses séjours en famille, il ne se rappelait pas avoir vu jamais, parmi les cadres où figurait sa mère en déesse, la draperie à l'épaule et le sein nu, et son père un cornet de dés à la main, aucun portrait qui représentât Monsieur de Galandot et où il eût pu prendre quelque idée de sa taille ou de sa mine. Il s'en étonnait sans savoir ce qui avait empêché que l'oncle parût là, même en peinture. Il ne subsistait en effet entre les Portebise et leurs cousins d'autre lien que celui de la parenté dont la force durable et imprévue venait de se faire sentir de la façon la plus heureuse, car le vieux gentilhomme, en mourant à Rome, où il s'était retiré depuis de longues années, laissait ses biens à ce petit-neveu. Aussi François était-il encore tout abasourdi de cette aubaine. Le peu de chance à cet héritage en rendait la surprise plus agréable encore, et l'heureux héritier ressentait le plaisir qu'il y a à se réveiller un beau matin et d'un seul coup solidement riche. Jamais donc M. de Galandot ne lui parut plus vivant que maintenant qu'il était mort. Le jeune homme cherchait à se représenter exactement son bienfaiteur inattendu, mais il manquait, comme on voit, les secours ordinaires qui aident en pareil cas notre incertitude au sujet de quelqu'un qui prend pour nous un intérêt subit. Et il se tourmentait en vain pour s'imaginer comment pouvait donc bien être ce Galandot d'Italie qui mourait si juste à point pour un porte-bise de France et, faute de mieux, il en était réduit pour toute ressource à ne se le figurer autrement qu'à l'effigie des écus dont ce favorable trépas faisait tinter à ses oreilles le bruit argentin. Il lui voyait le profil d'une monnaie et ainsi le trouvait fort beau. François de Portebise l'était aussi. C'était un garçon de 25 ans, joli à voir sous son uniforme vert à parements rouges, le catogan bien tressé et noué sur la nuque d'un ruban noir. Sa tournure militaire faisait se retourner les femmes quand il passait sur la place, en compagnie de messieurs de Créange et d'Oriocourt, ses inséparables, à la parade comme au trépot. Ils se montraient experts tous trois au jeu d'amour et de hasard. Ils y faisaient brelan et chacun marquait cœur à son tour. Tous trois pauvres d'ailleurs, car si les profits de l'épaulette sont minces, ceux des cartes sont incertains. Aussi ne possédaient-ils guère, comme ces messieurs, que le bien d'une bonne mine et d'une fort bonne naissance, car il était de noblesse prouvée et de taille agréable. Il s'y ajoutait de plus la chance d'être le fils d'une jolie femme, dont son père, le gros porte-bise, n'avait point dédaigné l'avantage d'être le mari, en épousant, déjà sur le retour, la belle Julie de Mauceuil, de qui était né le beau François. Du reste, le singulier mariage de cette gracieuse personne et de ce libertin ventru avait eu ses raisons dans l'entremise de la vieille Madame de Galandot, tante de Julie, qui s'y employa comme nous dirons. L'affaire bâclée, la nouvelle mariée suivit à Paris son époux, que les écus de la dot qu'on lui compta aidèrent à reprendre figure. Celle de sa femme était trop charmante pour qu'on n'y fît pas attention, et Portebise fut attentif à tirer profit de l'émotion que produisait ce visage délicat et frais, cette beauté voluptueuse et saine et qui semblait naïve. Il se poussa activement en tous sens, s'accrédita et se fut même enrichi, si le goût du jeu n'eût été le tambour par lequel s'en alla ce qu'attirait la flûte aux lèvres de cette nouvelle sirène. Cela ne se passa point sans que Portebise fût cocu, mais il le sut être avec profit et bonhomie. Ses cornes furent d'abondance. Sous un air lourdeau et rustre, il était fin, expert et corrompu. Aussi se pourvut-il grassement de places lucratives, où il prenait de quoi risquer au tapis vert, assez pour paraître gros joueur et en acquérir une espèce de renom parmi les brelandiers de la cour et de la ville. Cela lui donna une importance qui, jointe aux faveurs qu'il obtint de sa complaisance conjugale, fit de lui une sorte de personnage décrié, mais à même de bien des choses. Sa femme, pour sa part, ne se supposa jamais l'instrument de cette louche fortune. Elle n'imaginait point qu'on pût tirer de l'amour autre chose que du plaisir, ni du plaisir que ce que l'on peut en prendre soi-même. Que son mari pensât autrement, peu lui importait. Satisfait des services involontaires qu'elle lui rendait, il ne s'opposait point à son divertissement particulier. Aussi usa-t-elle en toute liberté d'un goût naturel pour la galanterie où la portait la vivacité de ses sens et auquel semblait la disposer l'éclat même de sa chair et toute la riche exubérance de sa beauté. Julie provoquait plus de désir qu'elle n'attirait l'amour. Elle répondait à l'un avec une promptitude qui eût sans doute offusqué l'autre, tant elle mettait une sorte de hâte à satisfaire l'impatience qu'elle causait. Aussi fut-elle à son insu en mesure de servir son mari auprès de beaucoup de gens qui surent à leurs dépens ce qu'il en coûta à leur complaisance d'avoir profité de la sienne. Parfaitement heureuse, elle fit beaucoup d'heureux. mais le désir passe avec qui l'a fait naître. Sa brusquerie se prend aux apparences qui se gâtent les premières. Tout charnel, il se conforme à la chair. Il en dépend, et comme il en a subi la vigoureuse chaleur, il se mesure à la durée de son éclat. Celui de Julie fut splendide et succulent. Elle éblouit, charma et ne retint pas. Elle eut des liaisons, et pas de ces liens qui nouent l'une à l'autre deux destinées et font que l'amour se prolonge entre deux amants, malgré le déclin des corps qu'ils unissent et l'usure des visages dont ils se regardent. Monsieur le maréchal de Bonfort, qui l'avait eu des premiers, l'appelait assez plaisamment les mille et une nuits. Elle souriait et passait outre, toujours belle, voluptueuse et fraîche. Pourtant, le temps vint où le sourire délicieux qui avait animé ce charmant visage n'y trouva plus l'aide de la jeunesse et où la belle Julie fut la toujours belle Julie avant de devenir l'encore belle Madame de Portebille. Elle le restait d'une beauté plus mûrie et comme alourdie ce soir où, le dernier, elle parut parmi ceux qui allaient si vite l'oublier. On soupait chez le maréchal de Bonfort quand, au milieu du second service, le gros Portebille s'affaissa brusquement sur sa chaise et donna de la tête contre son assiette. On le releva, le nez barbouillé de sauce et la face écarlate. On s'empressa, mais tous les soins furent vains. La veine ouverte par la lancette du chirurgien resta sèche. Il était mort, si bien que quand on l'eut emporté, Monsieur de Bonfort, en se mettant au jeu, ne laissa pas de dire qu'après tout, c'était encore là ce que le drôle avait jamais fait de mieux que de finir en bonne compagnie une vie que la plus mauvaise occupait d'ordinaire et qu'il en fallait louer Dieu. Ce trépas eut pour suite que Madame de Portebise demeura pauvre avec son fils déjà grand de lait. Son miroir consulté ne lui permit pas de doute sur l'opportunité de faire retraite. Il lui indiquait discrètement que son visage, qu'il avait si bien servi, ne tarderait pas à la desservir. Aussi prit-elle le franc parti de disparaître d'un monde où elle avait paru avec un éclat qu'elle n'était plus en mesure de soutenir. Sa dot depuis longtemps dispersée, il ne restait guère à la veuve et à son fils que la terre de Bas-le-Pré, qui lui venait de ses parents et continuait à porter récolte de ses maigres arpents. Elle s'y retira donc complètement, laissant François à Paris, au collège des Navarres, où Monsieur de Bonfort le maintint de ses deniers. Le vieux maréchal prit soin du jeune homme, qui ne revit sa mère qu'au moment de partir pour le service du roi et durant la semaine qu'il vint passer à Bas-le-Pré avant de rejoindre son régiment, où il retrouva messieurs de Créange et d'Oriocourt, qu'il avait connus à l'académie. Tous trois tenaient leur brevet du maréchal et se ressemblaient singulièrement. C'est en ce manoir de Bas-le-Pré que François de Portebise revoyait sa mère en pensée et, tout en causant de choses et d'autres sur le mail où il se promenait avec messieurs d'Oriocourt et de Créange, il retrouvait dans sa mémoire les moindres détails de ce bizarre logis. On y arrivait par un chemin d'arbres rabougris qui partait de la grande route et débouchait devant le château. C'était un bâtiment carré, avec une tourelle à chaque angle. Une poterne voûtée donnait accès à une cour intérieure, gazonnée et coupée d'une croix de sentier. En face de la poterne, une porte basse ouvrait au dehors sur un potager dont les plates-bandes bordées d'un buis clairsemé contenaient des légumes rachitiques et de malingres arbres à fruits. Par-dessus les haies de clôture, on apercevait quelques chaumières groupées en hameaux qui formaient une douzaine de feux. Une terre de médiocre étendue composait avec elle toute la dépendance du château, en grande partie inhabitée. Madame de Portebise y occupait les pièces basses du rez-de-chaussée que surmontait un étage de chambres et des greniers. Elle vivait là fort solitaire, vêtue de grosses laines, vaquant aux soins du ménage, un trousseau de clés à la main. Elle surveillait la cuisine, aimant à manger finement, et la buanderie ayant gardé le goût du beau linge. Aussi, l'armoire et le buffet étaient-ils largement garnis si la garde-robe était moins pourvue. Le plus clair du mince revenu de Madame de Portebise s'employait à faire venir de la ville des aunes de toile et des paniers de provisions, car les fruits du jardin et les volailles de la basse-cour ne lui eussent fourni qu'une chair piteuse. La redevance des fermiers était chétive. Il respectait fort Madame de Portebise, car elle mettait grande attention à ne point se laisser duper. Elle examinait avec soin le beurre de la baratte et le grain du boisseau, mais elle ne pouvait faire que les vaches ne fussent avares de lait et la semence pauvre d'épis. Ses menus soins achevés, elle s'asseyait d'ordinaire près de la fenêtre et filait au rouet. Elle accompagnait son travail monotone de chansons continuelles, car elle demeurait gaie et rayeuse. Mais, au lieu de Noëls et de complaintes de bonnes femmes, elle fredonnait des couplets gaillards et des refrains grivois, car sa mémoire était pleine de ceux qui couraient en son beau temps, et elle en murmurait sans y penser l'inconsciente gravelure. Ses ponts neufs contrastaient singulièrement avec son costume de merlois, mais personne n'était là pour prendre garde aux disparates. La vieille Jeannette tisonnait l'âtre, et le petit Jean, qui était simple, entrait ou sortait, portant quelques vaisselles, avant d'aller passer une sous-quenille pour dresser la table et servir le repas de sa maîtresse. Elle mangeait seule, abondamment et longuement. L'embonpoint tendait sa chair encore souple. Elle gardait de sa beauté passée un visage agréable. Elle était grasse, avec les plus belles mains du monde, et, quant à son miroir, avant de se mettre au lit, elle défaisait sa guimpe de lingerie, elle laissait tomber sa jupe de futaine, de cette dépouille, couleur de cendre et de feuilles mortes, elle sortait nue et plantureuse, les seins lourds et la croupe rebondie. François de Portevise se revoyait à Bas-le-Pré, assis en face de sa mère, devant la grande soupière à fleurs, à laquelle ils apportaient tous deux un appétit égal. Lucien s'aiguisait au grand air. L'après-midi, il battait le pays sur un vieux courteau qui le ramenait le soir aux quatre tourelles de Bas-le-Pré. La nuit, il entendait grincer leurs girouettes. Le vent courait sur les campagnes par larges poussées et s'arrêtait un instant à taquiner les vieilles ferrures, puis passait outre et continuait sa route aérienne. Cette antique demeure, avec sa tour herbue, debout au milieu des champs, lui semblait un triste séjour. L'alentour n'en compensait pas l'intérieur. Cette piètre seigneurie de Bas-le-Pré était composée de terres revêches et dures, rebelles à la charrue, d'une culture difficile et d'un produit médiocre. Le blé y poussait court. L'herbe rase nourrissait un bétail maigre. Le paysan y était hargneux et hâve. Les bois sans futaie ne donnaient guère que des broussailles et des baliveaux. Les troncs y étaient rugueux, les branches estropiées, les souches cornues et grimaçantes. Des marais embusquaient çà et là leurs eaux ternes qui en rongeaient sournoisement les bords. C'était un mauvais coin de pays, une sorte de sol de rebut qui contrastait avec les terres voisines, vertes, plantureuses, de bon aspect. Ce Bas-le-Pré, enfoncé par des pointes bizarres, son terroir anguleux et dur, dans la fertilité environnante. Il formait une enclave hostile, ridée de sillons arides, vêtue d'herbes pelées. Ses mares glauques louchaient, ses arbres menaçaient. Il avait, si l'on peut dire, mauvais visage. Il était une manière de déchet dont les seigneurs du lieu durent s'accommoder tant bien que mal. Ils y avaient toujours vécu à l'étroit, retirés et rétifs, connus pour leur âcre vouloir et leur méchant caractère, leur aigreur. Mal hospitaliers, de foi scabreuse et d'adresse retorse, assez bien représentés par leur nom même de Mauxseuil. C'était merveille de penser que la belle Julie fut née en ce vilain lieu, de ces vilaines gens et même du pire d'entre eux. Elle était la fille tardive du dernier monsieur de Mauxseuil, qui, d'un second mariage d'où elle était issue, l'avait laissée orpheline avec la seule compagnie d'une tante plus qu'à moitié folle, autant par nature que par la rage d'avoir vu sa cadette sortir de Bas-le-Pré et épouser par une fortune extraordinaire le comte de Galando, dont elle mit au monde, en 1716, un fils du nom de Nicolas, qui se trouva le cousin de Julie, et par suite devint le grand-oncle de François de Portebise. Les terres des Galando étaient vastes et bonnes. Elles entouraient de toutes parts celles des Mauxseuil. Les quatre tourelles de Bas-le-Pré regardaient au-delà de leur chétif arpent s'étaler une noble étendue de prés, de champs et de bois, et voici que par un singulier retournement de fortune, tout cela passait aujourd'hui aux mains heureuses de François de Portebise. Le petit domaine acariâtre et rechigné accaparait la grande et forte seigneurie. Les minces sillons de l'un se continuaient des bons labours de l'autre. Les bois rachitiques s'unissaient aux riches forêts, les prés pelés aux fertiles prairies. C'était l'union des sept vaches grasses et de la vache maigre. Il semblait à François de Portevise qu'un large souffle de bonheur venait de passer sur sa vie. Les girouettes des tourelles de Bas-le-Pré avaient tourné brusquement. Le vent avait fait battre les volets, ouvert les fenêtres, chassé la poussière. Et tout cela parce que quelqu'un qu'il ne connaissait pas était mort à Rome, et parce que lui était bien vivant, prêt à jouir de ce que la vie donne à tous, et, grâce à ce legs opportun, de tout ce dont l'augmente la richesse. Oh, le digne oncle que ce Nicolas de Galando! Et svelte en son coquet uniforme à parements rouges, le catogan bien tressé et noué à la nuque d'un ruban noir, sur le mail qu'il parcourait entre messieurs d'Oriocourt et de Créange, ses inséparables, il allait, faisant sonner ses éperons, tandis qu'à son oreille une petite voix intérieure lui disait « Eh bien, François de Portebise, êtes-vous content ?» et ajoutait du ton de fausset d'un tabellion qui assure ses bésites « Seigneur de Noircourt les Trois Fontaines, seigneur de Clerchamps, de Saint-Martin le Pieux, du Clos Joly, des Serpentes, de Saint-Jean-la-Vigne et autres lieux, châtelain de Pont-Aubert. » Et il se sentait une reconnaissance pour tant de biens imprévus envers ce Galando le Romain qui lui apparaissait dans une sorte de prestige incertain mais imposant, debout sur un socle, le glaive à la cuisse, la cuirasse au torse et avec la longue perruque que porte le grand roi quand on le représente en César ou en Auguste sur les places de ses bonnes villes ou sur les médailles de ses victoires.